BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos, chaque vendredi. Nos experts sont là, nos talents non fongibles, nos NFT rien qu'à nous. Stanislas Barthélémy en plateau, senior manager crypto Web3 pour KPMG Finance. Bonjour Stanislas.
Bonjour Guillaume.
Et Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Ravi de vous retrouver également. Le CEO de Meria depuis Metz et sa Moselle chérie, Owen Stanislas. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble de l'actualité qui aura marqué cette semaine crypto. Mais d'abord, le Bitcoin qui recule. Ouais, un petit peu décevant, non ? Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, bonjour.
Analyste technique indépendant, le cours du Bitcoin qui a perdu maintenant plus de 20%. On est à 55 000 dollars là. Plus de 20% de repli depuis le début du mois de juin. À contre-tendance d'ailleurs de Wall Street et des indices actions. Le S&P qui lui au contraire est sur des records. Comment expliquer cette sous-performance des cryptos actuellement?
Écoutez, je vois cinq grandes raisons à cette correction du cours du Bitcoin. Déjà, je la restitue, cette correction du cours du Bitcoin, c'est une correction de mi-cycle, mais dans un cycle haussier de fond. Alors, il y a plusieurs choses qui jouent. Tout d'abord, il y avait un décalage par rapport au cycle monétaire de Bitcoin. C'est un simple retour à la moyenne. Jamais dans son histoire, Bitcoin ne s'est présenté à son record historique. Il l'a fait cette année, il s'est présenté à son record historique au mois de mars, plusieurs semaines avant le halving. Jamais il ne l'avait fait. C'était l'euphorie des ETF. C'est donc un retour à la moyenne. On se recalibre sur le cycle monétaire habituel. Et finalement, vous allez voir que ce record historique des 70-75K, on le reverra d'ici l'automne. Deuxième raison structurelle qui compte, c'est qu'en termes de saisonnalité, nous sommes dans le ventre mou. Il n'y a jamais rien à attendre entre 0 et 100 jours après le halving. Donc, ce sont ces deux raisons, je dirais, cycliques propres à Bitcoin qui se combinent. Ensuite, à cela s'ajoutent quelques raisons conjoncturelles qui agissent maintenant. Vous en avez parlé sur votre antenne. Les remboursements qu'ont commencé des clients lésés en 2014 de Mighty Gox. Des mineurs qui vendent un peu pour se hedger parce que ils ont besoin de liquidité, on est assez largement sous le prix du halving. Il y a aussi les ventes de Bitcoin du gouvernement allemand qu'ils ont récupéré suite à une fraude. Bref, bon, tout ça joue à court terme et moi j'insiste, ce que vit Bitcoin là, c'est assez classique, il l'a déjà fait dans son histoire. Il l'avait fait par exemple au printemps 2021 après une hausse verticale, on avait besoin de purger le marché. Finalement, c'est très sain. Moi, ma conviction, Guillaume, c'est que le point bas sera fait en juillet. La reprise ensuite sera progressive et vous allez voir, la fin d'année sera bonne et nous reverrons le record historique des 75 000 dollars.
Chacun se fera un avis effectivement sur le potentiel avenir des cryptos et du Bitcoin. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a eu un indicateur intéressant aux États-Unis. C'est le rapport sur l'emploi que tout le monde attendait, le rapport mensuel sur l'emploi. Un petit peu supérieur aux attentes, les créations de postes toujours aux États-Unis. Mais il semble quand même que la tendance globale marque un ralentissement. Enfin, un petit ralentissement de ce marché de l'emploi. Bon, quelle analyse en faites-vous? Quel impact surtout? On est ici dans les pros des cryptos. Quel impact sur l'analyse technique du Bitcoin, Vincent?
Oui, alors sans rentrer dans les détails, le chiffre pour moi qui compte aujourd'hui, c'est que le taux de chômage aux États-Unis atteint 4,1% de la population active. Nous savons que c'est le seuil d'alerte de la Fed. L'impact qu'il est immédiat, en particulier sur les taux obligataires du marché, qui sont proches de donner des signaux techniques baissiers de moyen terme. Vous allez voir aussi que ça, progressivement, tout au long du mois de juillet, ça va aider Bitcoin à se stabiliser. Pas dans la séance d'aujourd'hui, dans une phase là de baisse, il y a encore beaucoup d'offres de Bitcoin qui ont besoin d'être vendues. Pour retrouver une analyse technique haussière de Bitcoin, il faut stabiliser soit sur un gros support, mieux dépasser une résistance. Moi, l'amplitude maximale de la correction, je la vois entre 48 et 52 000 dollars. Je ne sais pas si on ira. Par contre, ce que je sais, c'est que si on redépasse la résistance des 58-60 000 dollars, là, la correction sera terminée et le marché repartira vers l'ATH. En tout cas, les chiffres américains du jour sont plutôt une bonne aide pour aider Bitcoin à se stabiliser ces prochaines séances.
Merci Vincent. Vincent Gann en direct avec nous, analyste technique indépendant régulièrement à nos côtés. Alors on va revenir bien sûr sur la baisse des cryptos de cette fin de semaine. On parlera aussi au sommaire de ces pros des cryptos de Solana. Va-t-on vers des ETF spot Solana? Une deuxième candidature a été déposée après VanEck, 21 Shares, la crypto Solana qui en profite et surperforme le marché. On parlera aussi de Mika qui a franchi une nouvelle étape cette semaine, une nouvelle étape de mise en œuvre. Circle s'est positionné mais Forge aussi fait de gros efforts sur son stablecoin euro. On essaiera de décrypter la stratégie de Forge et de mesurer l'avenir des stablecoins euros. Oui, il y a ceux du stablecoin dollar, bien sûr. Les stablecoins euros sont très, très en retard, mais quelques évolutions qu'il faut quand même qu'on évoque ensemble. Et puis les législatives, bien sûr. Et cette candidate Bitcoin qu'on veut vous présenter, alors, si on ne présente pas son programme ici dans les pros des cryptos, on vous présentera ce programme nulle part. On précise néanmoins que cette candidate n'a pas réussi à franchir le premier tour des législatives, mais quand même, son programme est intéressant et on vous en fera part. C'est votre machine à remonter l'actualité de la semaine, les pros des cryptos. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
avec Owen, à distance avec nous, et Stanislas Barthélémy en plateau. Bonjour messieurs, on est ravis donc de vous retrouver pour débriefer l'actu de la semaine, anticiper la suite surtout. C'est vraiment la mission, apporter des clés de décryptage pour que ceux qui nous suivent puissent anticiper, appréhender le mieux possible les mois qui nous attendent, l'avenir des cryptos. On le disait d'ailleurs, le Bitcoin souffre, moins 20% depuis ses plus hauts. Stanislas, on est à 55 000 $ là, alors que ça y est, les ETF Bitcoin sont sur le marché. Bon, franchement, on se regarde dans les yeux, Stanislas. Vous êtes déçu par les performances du Bitcoin, là ?
Ça dépend de l'analyse qu'on a. Si on regarde à court terme, évidemment que ça fait jamais plaisir de voir le Bitcoin reculer d'autant. Et comme le disait Xavier, c'est plutôt sain en période de cycle haussier d'avoir des corrections. Moins 20, moins 30%, c'est assez courant quand on analyse les autres cycles. Et c'est vrai qu'à court terme, il y a une pression vendeuse forte. Le gouvernement allemand, les mineurs aussi. Et le repayement de MT Gox, qui est quand même une histoire qui dure depuis 10 ans et ça se fait enfin. Donc grosse pression vendeuse. Après, à moyen long terme, on verra, mais pas de raison de paniquer.
Pareil, Owen, voilà, effectivement, on sait, les cryptos, c'est extrêmement volatile toujours. On est dans un épisode de plus de volatilité ou cette fois, quand même, cette volatilité a un goût amer.
Non, je pense que c'est exact. Enfin, c'était un mouvement qui était attendu. Je mettrais même un petit point supplémentaire sur MTGOX. Il y a des gens qui touchent aujourd'hui des bitcoins qu'ils ont perdus il y a plus de 10 ans. Quand on voit le prix de bitcoin à l'époque et qu'on voit le prix d'aujourd'hui, il serait naturel, surtout pour une personne qui avait fait le deuil de ses bitcoins, de les recevoir aujourd'hui avec une valorisation aussi folle. Et je dirais même que ce serait bête de ne pas prendre une partie de ses profits. Donc c'est normal qu'il y ait une pression forte. Il y a plusieurs raisons à ça, mais MTGOX est selon moi la plus grosse pression vendeuse qu'on a aujourd'hui et qu'on observe sur les marchés.
Alors tout souffre, mais pas les volumes sur la blockchain Ethereum. On a vu de sacrés volumes ces derniers jours, en l'occurrence Stanislas. Pourquoi ? Est-ce que c'est un signal là ?
Le signal qu'il y a, c'est que la DeFi reprend des couleurs. Et donc les volumes qu'on a sur Ethereum, c'est beaucoup, ça tient beaucoup à ces volumes qu'on a sur la finance décentralisée, que ce soit sur du prêt, de l'emprunt, de l'échange de stablecoin, etc. Donc signal de vitalité, oui, et après on voit que le prix de l'Ether peut descendre alors que le fondamental est plutôt bon. Donc c'est la décorrélation entre le fondamental et le prix. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum a gagné ses galons de ce qu'on appelle couche de confiance. C'est-à-dire qu'on l'utilise, cette blockchain, pour faire du transfert de valeur, de stablecoin. Et on en reparlera tout à l'heure avec les initiatives de stablecoin au sens de Mika. Et
effectivement, on en reparlera. Ce sera au menu des pros des cryptos, bien sûr. Mais les ETF Ethereum, on les attend toujours. Est-ce qu'ils vont arriver ? Alors, ils vont arriver avec retard, ça, on sait déjà. Mais est-ce qu'ils vont arriver encore plus en retard que ce qu'on pensait jusqu'ici ? Est-ce qu'il y aura du retard dans le retard ?
C'est compliqué, l'analyse des ETF aux États-Unis. Je me tiens toujours à ce qu'écrit Eric Balchunas, en l'occurrence, qui dit que lui, ça devrait arriver d'ici peut-être le 8 juillet. Il y a toujours des échanges, des allers-retours entre ceux qui déposent des dossiers pour créer ces fameux ETF avec la SEC. Ce qu'on sait, et c'est ce que Gary Gensler avait plus ou moins indiqué subrepticement, c'est que ça arrivera courant de l'été. Donc il y a déjà cette attente, il y a très peu de doutes. Après, la date, ça va légèrement peut-être changer, mais c'est une affaire de jour.
Alors, je voudrais ajouter une toute petite chose que j'ai observée et qui va vous plaire, je pense, Guillaume, d'observer. C'est le fait que l'intérêt pour le minage de crypto-monnaies est en train de revenir. Il explose. Quand je parle d'intérêt, je parle de consultation des articles sur le web, des vues des différents contenus vidéo que j'ai pu créer, mais également sur les autres chaînes, sur les autres créateurs de contenu, mais également les autres médias. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer en 2017, avant le premier bullrun, et en 2021, avant le second bullrun virulent que j'ai connu. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il y a un regain d'intérêt pour ces fameuses cash machines, en tout cas dans les yeux des débutants, et c'est souvent quelque chose qui se suit d'un intérêt pour le marché des crypto-monnaies dans sa globalité.
Oui, c'est l'expérience qui parle, là en l'occurrence, et ça donne un repère de plus à ceux qui nous suivent et qui nous regardent. Figurez-vous que, alors on parle d'Ethereum, là, du Bitcoin aussi, mais Solana aussi frappe à la porte pour obtenir son ETF spot, son ETF au comptant. Une deuxième candidature pour un ETF Solana a même été déposée ces derniers jours. C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, c'est sur notre fil BFM Crypto. Chacun d'entre vous peut s'y abonner. Stanislas et Owen, êtes-vous prêts ? Voici la question crypto qui claque. C'est peut-être donc la prochaine grande étape des ETF. La SEC, à vos yeux, validera-t-elle des ETF Solana au comptant ? Oui ou non ? Tel est le dilemme de la semaine. Je vous laisse réfléchir un instant, Owen et Stanislas. Stanislas, oui, y aura-t-il des ETF Solana au comptant ?
Oui.
Owen ?
Non.
Ah, c'est chaud. Vous avez peut-être vous qui nous suivez également un avis aussi tranché que nos experts. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux BFM Crypto. Voilà. Pourquoi, alors, un avis tranché l'un et l'autre d'ailleurs. Pourquoi non, Owen? Pourquoi vous ne pensez pas qu'il y aura un jour des ETF Solana au comptant? Pourquoi ce pessimisme?
Un jour peut-être. Pour le coup, si c'est sur du très long terme, je rejoindrai Stanislas dans son analyse. Moi, c'est plutôt sur du court terme. Ce qui fait que ça s'est fait pour Bitcoin et que ça a été compliqué, mais que ça s'est fait quand même sur Ether, c'était principalement sur des critères de décentralisation qui ont permis, entre guillemets, à la SEC de laisser l'actif obtenir son ETF spot. Je pense que sur Solana, aujourd'hui, ce serait pas possible. Maintenant, et surtout si vous me passer l'expression, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. On n'est pas à l'abri du fait qu'un produit de ce genre pourrait arriver sur Solana. Et pour moi, ça donnerait beaucoup d'énergie à plein d'autres crypto-monnaies qui rêveraient également de pouvoir avoir ce genre de produit et capter des volumes à la hausse.
Un coup de...
cul.
C'était un pari, Owen, avec un ami, il fallait caser.
Pas du tout.
Pas du tout. Deux avis tranchés, là, à vos yeux, Stanislas. En revanche, oui, on va avoir un jour, peut-être rapidement ou pas, d'ailleurs, c'est une question dans la question, un avis favorable de la SEC à des ETF Solana au comptant. Pourquoi êtes-vous affirmatif à ce point?
C'est une question de temporalité. Alors, affirmatif à ce point, je vais rejoindre un peu Owen. C'est probablement que oui. Peut-être en 2025, et ça pourrait changer éminemment avec les choix politiques des Américains, du peuple américain. Je pense que si Donald Trump est élu, ça change un peu la donne pour le secteur crypto. Il pourrait y avoir d'autres têtes à la tête des SEC ou d'autres agences, et peut-être un avis plus favorable à certaines crypto-monnaies. Mm-hmm. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une multitude de développements d'ETF, et parfois des ETF avec plusieurs collatéral. Je pense à des ETF avec, par exemple, je dis au hasard, mais 75% BTC, un peu d'ETH et un peu de Solana à terme. C'est ce que je vois se développer.
Quel impact possible ça aurait pour Solana? On a vu hein, sur Bitcoin, l'impact des ETF Bitcoin. Voilà, sur Ethereum, on attend toujours ces ETF. On verra l'impact une fois que ces ETF arriveront sur le marché. Et pour Solana, est-ce que vous attendez... D'ailleurs, Solana surperforme déjà. Est-ce que vous attendez un énorme impact?
C'est difficile de le quantifier puisqu'il y a le même doute sur Ethereum, c'est-à-dire il y aura du volume, oui, mais est-ce que ce sera assez de pression acheteuse pour pouvoir faire monter les cours? Ce qui est certain, c'est que quand on crée un ETF dans l'état d'investissement entre guillemets des cryptos, ça ouvre les vannes pour certains acteurs d'investir dans ce type de produit. Donc il y aura une pression potentiellement acheteuse. La question après, c'est de la quantifier, de se dire, bon, est-ce que c'est 20 ou 30% des volumes qu'il y avait sur le Bitcoin? Et dans ce cas-là, on peut s'amuser à faire une projection en fonction de la liquidité du marché.
Oui, c'est comme ça que vous réfléchissez, que vous essayez d'anticiper l'éventuel impact pour Solana également, Owen?
Tout à fait. On en rigolait sur mon expression, mais je pense que beaucoup de personnes qui déposent ce genre de dossier jouent quand même avec la chance et se disent que c'est possible. Et vu que ce sont des actifs qui sont particulièrement volatiles, ça peut être vraiment très rémunérateur de réussir à lister un de ces produits. Et donc, je pense vraiment qu'il y a une opportunité à aller chercher, et qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui, tout de suite après, si Solana obtient son ETF, il y a un grand nombre d'actifs qui vont voir cette opportunité comme à leur portée et on va voir des demandes aller dans tous les sens si, en plus de Bitcoin et d'Ether, c'est cette fois-ci Solana qui arrive à obtenir son ETF.
Les pros, les cryptos, la suite, chaque semaine on vous accompagne. Toute l'actu de la semaine, résumée, condensée en à peine 20-25 minutes. C'est votre machine à condenser le temps en direct sur BFM Business, à retrouver en replay aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. C'est vrai que voilà, il y a des perspectives intéressantes en matière d'ETF. Cette inclusion financière qui avance, mais qui ne suffit pas. Elle ne suffit pas à convaincre tous les organismes, et surtout pas les plus centralisés de la Terre. L'un des plus centralisés du monde, c'est la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, qui est en quelque sorte la crème de la centralisation. Eh bien, elle parle encore, la BRI, en mal des cryptos dans son dernier rapport, avec des arguments ON. Que dit-elle et est-ce qu'il faut y prêter de l'importance ?
Y prêter de l'importance, ça reste la BRI. Maintenant, en effet, c'est la centralisation poussée à son paroxysme. Et évidemment, c'est un discours qui va être très péjoratif vis-à-vis du risque des crypto-monnaies, vis-à-vis du risque de la finance décentralisée. Hein, vous l'avez compris, c'est vraiment la décentralisation qui peut poser problème. Certains stablecoins et leur risque de liquidité, si on reprend les propos de la BRI, mais également les oracles, hein, vous savez, qui sont ces passerelles qui permettent d'aller prendre des données du monde réel pour les importer dans le monde de la blockchain et des cryptos. Ils reconnaissent malgré tout l'importance de la tokenisation, mais particulièrement quand ce sont des solutions blockchain privées ou quand ce sont des solutions blockchain centralisées comme les monnaies numériques de banque centrale. Donc, pour le coup, c'est vraiment un discours que l'on connaît déjà dans le monde de la crypto et qu'on a déjà partagé plusieurs fois sur ce plateau, Guillaume. La blockchain, oui, mais une blockchain bien centralisée, contrôlée et contrôlable gérable par un système centralisé. Ce qui leur fait peur, c'est visiblement la décentralisation et toutes les autres valeurs que les crypto-monnaies sont en capacité technique de porter.
Voilà, décryptage autour de ce rapport donc de la BRI qui a été publié cette semaine. Très très long rapport d'ailleurs que vous avez lu en intégralité. Ce qui est frappant, c'est que les États se convertissent peu à peu aux cryptos, mais même ceux qui s'y convertissent le font parfois à reculons. Exemple, les États-Unis. On n'arrête pas de dire là depuis quelques semaines que les États-Unis, ça y est, se réveillent et apportent enfin un peu de visibilité à l'écosystème. Ben, c'est pas du tout l'avis de Vitalik Buterin qui s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours. Il qualifie Stanislas, la régulation crypto-américaine d'anarcho-tyrannie. Carrément.
Il faut définir les termes.
Attendez, on va allumer votre micro. Voilà, ça y est.
Et mon petit Larousse m'indique que quand on parle d'anarchie, c'est d'une situation où il y a une carence de loi, c'est-à-dire pas de loi. Et la tyrannie, c'est qu'on est soumis à un tyran, donc aux lois d'un tyran. Si maintenant on l'applique aux États-Unis, et je trouve que le constat est assez vrai, quoique peut-être le concept un peu pompeux, c'est qu'aujourd'hui il y a un flou, il n'y a pas de définition. Et si on reste flou, alors c'est qu'il y a un loup, disait Martine Aubry, mais si on reste flou, quelque part on peut passer entre les mailles du filet. Au contraire, quand on commence à communiquer très précisément sur ce qu'on veut faire de son produit, de sa crypto, etc., là, ce risque de professionnalisation fait qu'on peut être classifié en security, en titre financier, et c'est là où la SEC cède dans son mandat et vient de mettre un coup de gourdin à ce projet. Ce qui fait qu'on donne quelque part le primat aux projets qui sont flous et on pénalise ceux qui sont un peu plus clairs, un peu plus clairvoyants sur ceux qui veulent faire. Donc le terme d'anarchie, d'anarcho-tyrannie, à mon sens, est intéressant, mais c'est aussi un peu hérité de la manière dont est structuré le droit aux États-Unis avec ce fameux fonctionnement de civil law, comme on dit, de common law, pardon, où on se base beaucoup sur la jurisprudence et sur des jugements. Là où en Europe, on fait un choix différent de d'abord dresser un cadre hérité de l'Empire romain et puis après, on laisse le marché s'adapter.
Effectivement, le code Napoléon aussi. Enfin voilà. Du coup, c'est pas si mal l'Europe. Enfin, la réglementation MiCA, on disait depuis quelques semaines. Non, finalement, la réglementation, en tout cas, la clarté qu'apportent les États-Unis, finalement, va rendre l'Europe un peu has-been. Et sa réglementation MiCA, là, dont on disait qu'elle était formidable, finalement, c'est pas si bien quand on voit à quel point les États-Unis sont en train d'évoluer rapidement. Mais si, c'est plutôt pas mal l'Europe. MiCA a franchi une nouvelle étape cette semaine, qui apporte donc un peu plus de visibilité aux acteurs crypto, notamment pour les acteurs stablecoin. On va en parler. Mais du coup, les acteurs s'adaptent d'ores et déjà. C'est le cas de Circle qui frappe un grand coup, qui est devenu en début de semaine, Circle, le tout premier émetteur de stablecoin au monde à se conformer à MiCA.
Oui, et cette perspective croisée quand on compare les États-Unis et l'Europe. Alors les États-Unis, ils sont pragmatiques in fine, donc ils pourraient changer de position. Là où l'Europe fait ce choix de définir et d'essayer d'encadrer des usages qui sont encore prospectifs. Alors dans le cadre des stablecoins, c'est plutôt positif de créer un cadre, ça crée de la sécurité pour lancer un business, se développer, etc. Mais ce qu'on remarque dans MiCA, c'est que c'est assez dense et qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont sujettes à l'interprétation. Et alors, Circle a réussi à être, entre guillemets, ce qu'on dit MiCA compliant, c'est-à-dire à se conformer à ces textes-là, encore qu'ils ont fait les premières étapes. Il n'y a pas que Circle, hein, ça c'est le jeu de la communication, de dire on est les premiers, mais en réalité, il y a la société française Salvus, et puis il y a aussi Forge qui a annoncé être MiCA compliant.
On va en parler.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là, il y a encore quelques petites inconnues, avec des choses assez subjectives, c'est quand on dit qu'il y a un stablecoin qui reste petit, puis après il y a les stablecoins significatifs qui ont des règles différentes. Dans le cadre de Circle aussi, il y a quelques doutes, c'est parce que c'est un stablecoin qui peut être émis autant aux États-Unis quand on parle de l'USDC qu'en Europe. Donc comment on pourra récupérer ces fonds, la fameuse rédemption en un pour un? Enfin, il y a encore pas mal de questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un besoin et un doute. C'est qu'au 30 juin, MiCA, le volet MiCA a commencé sur les stablecoins et on commence à avoir des bribes de réponses sur comment le marché des stablecoins va se structurer.
Oui, et c'est un peu de visibilité. C'est en l'occurrence Owen, en Europe, que ça se passe.
Tout à fait. Il y a une vraie question qui se pose. C'est sur le retard que les stablecoins euros ont depuis toujours sur les stablecoins dollars. Tous les stablecoins sont en dollars. En euros, c'était pas clair. Les gens avaient peur de se lancer puisqu'il n'y avait pas de cadre clair. Et on sait très bien que l'Europe a voulu cadrer beaucoup plus rapidement que les États-Unis. Donc la plupart des stablecoins que l'on voyait naître et voir le jour, ils étaient basés sur du dollar américain. Donc quand on crie à l'hégémonie du dollar et qu'on sait qu'il y a un cadre qui fait peur et que personne ne veut créer un stablecoin euro, c'est quand même paradoxal. En l'occurrence, on peut se poser la question. Est-ce que cette régulation va freiner encore plus, va faire encore plus peur, et ça va limiter encore plus les stablecoins euros qui étaient déjà minoritaires sur ce marché, qui a pourtant besoin de stablecoins et de cryptoactifs moins volatiles, on va dire que Bitcoin et Ether, ou est-ce qu'au contraire, maintenant qu'il y a un cadre parfaitement défini, on va voir plein d'initiatives et plein de stablecoins euros apparaître? Il n'y a que le temps qui va pouvoir répondre réellement à cette question, mais on commence déjà à voir certains acteurs se positionner, et je ne serais pas surpris du tout de voir d'autres institutions financières et établissements bancaires créer des stablecoins régulés en Europe très bientôt.
C'est vrai, alors pour l'instant, à ce stade, hein, à l'heure où l'on se parle, en ce mois de juillet 2024, il faut bien dire, reconnaître, comme le mentionnait à l'instant Owen, que les stablecoins euros ont trois trains de retard. Est-ce éternel ? Est-ce que c'est éternel ? L'éternel retard, la sempiternelle lamentation sur l'avenir des stablecoins euros. Les stablecoins euros restent à la traîne. Est-ce une fatalité ? Est-ce pour l'éternité ce retard ? Les volumes montrent que les stablecoins euros sont manifestement là juste pour faire joli face aux stablecoins dollars, qui eux ont pouvoir à l'échelle mondiale, manifestement, Stanislas. Mais certains en ont décidé autrement. Oui. Ouais, c'est Société Générale Forge qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière là aujourd'hui, un pavé dans la mare. Forge qui vient d'annoncer des évolutions techniques réglementaires pour son stablecoin euro, histoire peut-être d'enfin compter face au stablecoin dollar. C'est du lourd ou c'est pas du lourd ? Telle est la question. C'est juste pour répondre à Mika qu'on a ces évolutions technologiques sur le stablecoin euro de Forge, où là on peut se dire effectivement qu'avec ces évolutions, ce stablecoin et les stablecoins euros vont prendre enfin une nouvelle dimension et sortir de l'éternel retard. Stanislas ?
Pour moi c'est du lourd. Le Coinvertible, donc, qui est le nom de cet euro lancé par Société Générale, il y avait un premier ballon d'essai, mais qui était un peu contraint. C'était une temporalité un peu étrange parce qu'on était avant Mika. Et donc, il y avait plein de précautions qui étaient prises sur sa circulation notamment. Maintenant, on est dans une ère post-Mika. Mika est enfin en œuvre. Et ce que fait Société Générale Forge, c'est de changer son setup juridique et de faire en sorte de répondre aux besoins de Mika. Ce qui permet par ailleurs de laisser le stablecoin circuler librement. Et c'est là que la donne, pour moi, change. Alors, ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Ce n'est pas un effet cliqué. Ça va prendre du temps. Mais c'est que la libre circulation de ce stablecoin permet derrière de l'utiliser, lui donner des cas d'usage, notamment en finance décentralisée. Ça peut être, par exemple, dans des pools de liquidités sur Uniswap, ça peut être en utilisant les produits de Morpho, ce qui permet de générer du rendement, de faire du prêt, de l'emprunt. Et là, ça devient intéressant d'avoir un stablecoin qui circule dans la finance décentralisée avec la puissance de la marque Société Générale. Je vois bien des projets crypto, même des sociétés, des DAO, des projets crypto qui pourraient utiliser ce stablecoin comme moyen de paiement pour des salariés ou même pour des family office, des hedge funds, d'avoir des stratégies avec du rendement. Le côté collatéral dans une banque telle que Société Générale crédibilise. Donc on avait un vrai problème avec les stablecoins euros, on tourne autour du pot, mais c'est que l'offre était très limitée et la demande petite. Je pense qu'en l'occurrence, la demande va se développer avec cette offre qui devient de plus en plus alléchante.
On parle là des stablecoins parce que donc Mika a franchi une nouvelle étape et notamment de réglementation vis-à-vis des stablecoins cette semaine. Effectivement, les stablecoins dont le développement sera plus difficile. Enfin, c'est le patron de Circle qui a expliqué que les stablecoins en Europe étaient vulnérables malgré tout.
Le patron de Circle dit ça. C'est peut-être celui de Tether.
Vous avez raison,
Paolo
Arduino. Oui.
Mais ce qui est certain,
Tether qui ne s'est toujours pas confirmé à Mika d'ailleurs.
Et qui ne le souhaite pas, voilà, d'après les dires de son patron.
Oui.
Pour différentes raisons, dont quand il parle de vulnérabilité, c'est un problème de business model. C'est-à-dire que si les stablecoins américains, on peut avoir du 70-80% de réserves en cash équivalent, c'est-à-dire des bons du Trésor américain qui génèrent du rendement. Et qu'en Europe, au contraire, quand c'est un petit stablecoin, il faut 30% de cash, voire 60% quand il devient significatif. On voit bien que le business model ne devient pas nécessairement compétitif. D'où les critiques d'une partie du marché de dire le business model et la rentabilité est mise en question, donc ça ne fonctionnerait pas. Je pense qu'au contraire, ça vaut le coup de tenter l'aventure Mika des stablecoins euros. Et après, si on doit faire un bilan et si le pragmatisme pourrait arriver et peut-être d'abaisser et changer ces pourcentages de réserve, je pense que ça débloquerait pour beaucoup l'usage des stablecoins euros.
Ce qui aura aussi marqué ces derniers jours, c'est qu'on a vu apparaître pour la première fois en France une candidate aux législatives, une candidate Bitcoin. Elle s'appelle Aurore Galvez-Orjol. Elle s'est présentée dans la 8e circonscription de l'Isère. Elle est en France la toute première candidate, donc revendiquant de défendre le Bitcoin au cœur de son programme. Elle a recueilli, on vous le dira dans un instant combien de voix elle a recueilli. En tout cas, elle n'a pas franchi le premier tour. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle proposait ? Que dira peut-être son programme ? Je dis que dira parce que peut-être qu'elle se représentera à l'occasion d'autres scrutins. Owen.
Pour faire simple, on ne parle pas seulement de crypto-monnaie, on parle bel et bien de Bitcoin et des valeurs qu'il porte. On parle donc de la self-custody, l'importance d'avoir sa responsabilité et le contrôle sur ses finances. On parle de l'importance que Bitcoin et du coup les crypto-monnaies peuvent avoir dans l'évolution du monde de la finance et du coup de la finance numérique. On parle également de la transition énergétique et de ce que Bitcoin pourrait justement apporter et donc de plein de valeurs qui pourraient épouser la politique d'aujourd'hui et des vrais sujets d'usage de finances qui peuvent concerner les citoyens.
Et donc, elle a recueilli, attendez, je les compte, elle a recueilli combien de voix là ? 1, 2, 3, 91 voix. 0,16% des suffrages. C'est pas énorme. C'est décevant, c'est encourageant, Stanislas ?
C'est pas énorme, mais c'est honorable. Je trouve que dans ces temps troublés où parfois c'est dur de se lancer en politique, d'aller défendre des idées un peu différentes, c'est très courageux. Surtout qu'on voit certaines personnalités politiques qui disent qu'on peut un peu piocher dans l'épargne quand on a des problèmes de dette en France. Donc, faut pas oublier que Bitcoin, de par ce concept technologique et l'autoconservation qu'on peut en faire, on peut se prémunir de ça, un peu comme ce qui s'est passé à Chypre, où il y avait une coupe de cheveux faite à tous les comptes bancaires de 10%. Bitcoin avait crevé l'écran à l'époque. Il y a quand même des choses technologiques intéressantes dans cette révolution.
Merci à tous les deux. Stanislas Barthélémy, KPMG Finance, et Owen Simonin, votre chaîne YouTube Asher, avec un H au début. Asher, il est aussi... Combien d'abonnés désormais, Owen ?
Plus de 670 000.
Ouais, ça monte. C'est ça l'inflation, hein, c'est quand ça monte, effectivement. Merci beaucoup, Owen. Il est aussi à la tête de Meria, les pros des cryptos, retrouvés tout le week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.